Studio Tamani, voici les informations en français.
Vendredi 1er septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon vos localisations actuelles. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Plusieurs personnes ont été arrêtées ces derniers jours. Des associations de lutte contre la corruption demandent leur jugement très rapidement. L'hôpital du Mali dispose désormais d'une unité de procréation médicalement assistée. Le département a été inauguré ce mercredi. La liste des aigles sélectionnés pour les deux matchs prévus pour ce mois de septembre est connue. La réaction de Eric Sekouchel sur les joueurs sélectionnés à suivre dans ce journal. Le développement avec Adama Amadou Haïdara, Salim Diouara est à la mise en onde. Comme annoncé dans les titres, plusieurs personnalités ont été placées sous mandat de dépôt cette semaine au Mali. Ces arrestations font suite à une série d'enquêtes ouvertes dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Intal Akbilal.
Parmi les personnalités arrêtées figure l'ancien ministre de la Sécurité sous le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, général Salif Traoré. Il serait poursuivi dans l'affaire dite Sécuriport, une société de sécurité qui intervient dans l'aviation civile et l'immigration. Une autre ancienne ministre du BK aurait été elle aussi entendue et placée sous contrôle judiciaire dans la même affaire. Le directeur financier et du matériel du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et son régisseur ont été également écroués. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans des malversations. L'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculteurs du Mali, Bakary Togola, a lui aussi été arrêté cette semaine. Il est également poursuivi dans une affaire de malversation portant sur plus de 9 milliards de francs CFA. C'est sa troisième incarcération depuis 2019. Cinq autres individus auraient été interpellés dans le même dossier, rapportent plusieurs sources.
Il faut certes arrêter les présumés coupables, mais il faut aussi les juger. Ce sont là les propos de Moussa Ousmane Touré, président de l'Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Selon lui, situer les responsabilités est aussi un facteur clé dans la lutte contre la corruption. On l'écoute.
C'est une bonne chose de voir les présumés auteurs soient entendus, interpellés et même mis sous mandat de dépôt. Mais depuis 2021, des anciens ministres ont été arrêtés pour des détournements. Tout récemment aussi, nous assistons à des arrestations. Est-ce juste pour arrêter ceux qui auraient détourné et c'est tout? Si c'est ça, vraiment nous pensons que la liste-là n'aboutira à rien. Le peuple a besoin, présumé auteur des détournements, répondre de leur acte, qu'on les juge, qu'ils les remboursent. Mais si c'est juste pour remplir nos maisons d'arrêt, nous n'avons pas besoin. Et nous osons croire que cet appel sera entendu.
Réagissez à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Depuis le coup d'État survenu en juillet dernier au Niger, des migrants maliens et aussi d'autres nationalités sont bloqués sur place. Les autorités nigériennes ont ordonné la fermeture des frontières aériennes et terrestres. L'OIM, l'Organisation internationale pour la migration, a sur place 7 centres de transit pour migrants. L'organisation affiche son inquiétude vu les conditions d'attente d'environ 5000 personnes, dont plus de 1400 maliens. Pascal est le chef de mission de l'OIM au Mali. Il est au micro de Mamadou Samasekou.
On a de plus en plus de jeunes gens et de jeunes filles qui n'ont plus accès à ces centres, donc qui se retrouvent dans des situations encore plus délicates au Niger, sans abri, sans nourriture, avec un besoin d'assistance. Plus les gens sont longtemps dans les centres, plus on a besoin de financement pour pouvoir continuer à offrir le logement, la nourriture, le suivi psychosocial. Et c'est là qu'on se dit qu'il est temps d'avertir l'opinion publique, mais aussi la communauté internationale, sur ce besoin de mettre en avant particulier de personne qui a un besoin actuel de soutien très rapide avec financement pour pouvoir permettre les actions de continuer et avec corridor humanitaire pour que les avions puissent ramener ces jeunes gens et ces jeunes filles auprès de leur communauté, auprès de leur famille ici au Mali.
Et c'était là Pascal Rentigens, le chef de mission de l'OIM au Mali. Nombreuses sont les femmes qui utilisent la planification familiale traditionnelle au Mali, une méthode contraceptive qui contribue à l'espacement des naissances. Cette méthode est-elle efficace? Est-elle conseillée à l'appliquer? Fatoumata Bagayogo pose la question aux acteurs.
Depuis les temps anciens, les méthodes contraceptives naturelles sont utilisées par les femmes. En témoignent certains spécialistes. De son surnom Mouna, cet herboriste indique qu'il existe différents types de méthodes naturelles pour espacer les naissances.
Il y a plusieurs plantes, les graines de ricin, il y a aussi des graines de Larvis pretecoris, les graines de poivre long appelé ganifi, les graines de papaye. Il y a des tafos traditionnels efficaces.
Par contre, certains spécialistes en santé de la reproduction déconseillent l'usage de cette méthode. Docteur Koulibaly Zé gynécologue.
Quand ces femmes-là adoptent les plannings naturels, elles ont des problèmes à concevoir après. Or, ça peut faire développer des kystes ou bien voir une aménorrhée de 6 mois. Donc, les choses qu'on fait à tue-tête, mieux vaut l'éviter.
Et pourtant, certaines femmes ignorent l'existence de ces techniques d'espacement des naissances. Cependant, d'autres vantent les bienfaits de cette méthode et recommandent à l'État de s'y intéresser.
Je ne suis pas au courant que le planning naturel existe, sinon je n'allais pas faire le planning moderne.
C'est plus bon que le planning moderne parce que les effets secondaires du planning moderne sont énormes. Les gens ne sont pas au courant. L'État doit faire une étude approfondie sur les méthodes naturelles.
Pour rappel, cette méthode contraceptive traditionnelle n'est pas certifiée par le Service national de la santé.
Comme annoncé dans les titres, l'hôpital du Mali dispose désormais d'une unité de procréation médicalement assistée, une première dans un hôpital public au Mali. De février à août 2023, 17 couples sont passés au test, parmi lesquels 10 femmes sont enceintes. Le coût varie de 140 000 à 900 000 francs CFA. Cette unité de l'assistance médicale à la procréation parentale est le fruit de la coopération sino-malienne. Elle a été inaugurée le mercredi 30 août 2023 par la ministre de la Santé. Dr Boubacar Sidiki Dramé est le coordinateur du projet Procréation médicalement assistée à l'hôpital du Mali. Il est au micro de Moussa Malé Sissoko.
Il s'agit soit des spermatozoïdes ou des ovules. Ce sont ces deux cellules qui sont récupérées pour faire la fécondation. On évalue les gens qui viennent pour besoin d'enfants. Après une consultation, les gynécologues peuvent se rendre compte qu'en ce moment, on propose d'aller à la fécondation in vitro, puisque par les moyens mécaniques, on peut intervenir et récupérer ces follicules-là et faire la fécondation dans les vitres et le transférer à l'embryon. L'homme peut avoir une qualité de sperme très médiocre qui font que ces spermatozoïdes ne sont pas capables de provoquer une fécondation. Donc on prenait un couple par semaine. Donc à ce rythme, on est arrivé pendant 2 mois à prendre à peu près 14 couples comme ça. On a eu tous les succès de près de 70%. Maintenant, nous avons pris à peu près 3 comme ça.
De plus en plus, on assiste à la création de nouveaux commissariats dans certaines localités du pays. C'est le cas dans certaines zones des régions de Kai, San, Douanza, Badjangara ou encore Kita. Sur place, la population accueille cette nouvelle avec joie et enthousiasme. Elles espèrent cependant voir rapidement la police dans leur localité. Écoutons leur réaction dans notre rubrique « On en parle ».
La création d'un commissariat à Bafoulabé est une bonne chose.
La création d'un commissariat à Ossibidjaya est une décision salutaire.
C'est avec plaisir que nous avons appris que Mandiakoui va bénéficier d'un commissariat. Nous sommes très contents.
Les gens de Sokoto sont contents.
L'arrivée de la police et la protection civile a une grande importance.
Alors c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime.
Le village de Kimbarna est toujours menacé. Donc, vu la situation aujourd'hui qu'on va aller créer un commissariat là-bas, donc vraiment c'est une très très bonne initiative.
Dans le sac de Sanga et celui de Sokura, c'est une très bonne chose, le fait de rapprocher la police à la communauté.
Parlons sport football à présent. Le sélectionneur des Aigles a dévoilé la liste de 25 joueurs sélectionnés pour les 2 matchs prévus pour ce mois de septembre. Il s'agit de la rencontre du Mali contre le Soudan du Sud pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 et celle contre la Côte d'Ivoire en amical prévue pour le 12 septembre. Eric Sekouchel est le coach des Aigles du Mali. Il réagit ici au micro de Jihad Tamaïga.
Ce Soudan du Sud est un match important. Pourquoi ? Parce que c'est un match à la maison. En vue de préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Ces éliminatoires vont être très importants parce que je pense que victoire à domicile sera pour moi gage de qualification. Et puis un second match qui pour moi est un match de préparation. J'ai plusieurs objectifs sur ce match. Le premier, c'est de découvrir le contexte en Côte d'Ivoire et de jauger l'atmosphère un petit peu et d'être prêt au mois de janvier. Il y a un deuxième objectif qui est de jouer contre une grosse équipe. Et puis aussi, ça va me permettre aussi de nous jauger sur un plan, on va dire, de la performance, donc c'est-à-dire physique, technique, tactique et puis mental. Concernant la liste, une liste qui a été compliquée au niveau de l'attaque, notamment avec des blessures.
Il est 18h passé des 10 minutes dans ce studio et nous recevons Mariam Koulibaly qui va nous faire l'introduction du Grand Dialogue avant de clore ce journal. Mariam, qui sont tes invités ce soir pour parler culture?
Diaye Issako, journaliste culturel, Ibrahima Ballo, artiste plasticien, Draman Diara, peintre, et Seydou Guindo, président du comité de gestion du musée Ndé de Bankas, sont nos invités de ce soir. Et le thème abordé est la peinture et la sculpture, des arts à valoriser au Mali.
Merci Mariam et merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. Restez toujours connectés dans un instant, le magazine Économie. Et juste après, vous pourriez suivre l'intégralité du débat avec Mariam Koulibaly. Bon début de week-end à tous. Les conséquences du blocus sur les axes Douanzan-Gao et Douanzan-Tombouctou se font sentir. Des dizaines de véhicules de transport de passagers et de marchandises sont à Douanzan. Ils sont empêchés par les groupes armés de continuer leur voyage. Cet arrêt de la liberté de circulation des personnes et de leurs biens a beaucoup impacté les activités économiques. Consommateurs, opérateurs économiques et transporteurs à Tombouctou, Gao et Douanzan ne cachent pas leur inquiétude. On en parle dans notre magazine Économie, une réalisation de Mamadou Samasekou avec le concours de nos correspondants.
Ce tronçon qui passe sur la route nationale 16 permet des échanges commerciaux entre plusieurs régions du pays. Les transporteurs estiment à des millions de francs les pertes déjà subies par ce blocus. Sidi Haïdara, président du conseil des transporteurs routiers de Douanzan.
Une fois que les véhicules sont garés pendant des jours, nous perdons des millions. C'est le même cas pour les remorques. C'est nous les propriétaires qui souffrons, car toutes les dépenses des chauffeurs et les apprentis reposent sur nous. Après ça, certains produits peuvent être défectueux pendant ce arrêt. Nous sommes les premiers perdants, nous les transporteurs.
La rupture de stock occasionnée par ce blocus se fait sentir à Gao par la flambée des prix des denrées alimentaires. Face à cette situation, la population en colère demande une solution rapide des autorités.
Depuis l'eau de l'igname qu'on a l'habitude d'acheter, c'est à moins de 500 francs. Aujourd'hui, est au-delà de 800 francs.
Quand on prend les oranges, avant c'était 50 francs, mais maintenant il y a plus ça dedans. Le kilo de l'orange, ça fait 1250. Les oignons aussi, le kilo va jusqu'à 1000 francs. La pomme de terre, la même chose.
Les gens en ont marre de ce problème de blocage.
Les opérateurs économiques de Gao regrettent que ce blocus coïncide avec d'autres événements malheureux. Les responsables de la Chambre de commerce et industrie déclarent que, pour soulager les consommateurs, des efforts ont été consentis par les uns et les autres. Boubacar Diko, vice-président de la CICIM de Gao.
Le Niger qui nous approvisionnait, tout le monde sait aujourd'hui qu'ils ont des problèmes comme nous. Et l'Algérie aussi, en saison pluvieuse, ça ne rentre pas du tout. L'unique voie d'approvisionnement pour nous, c'est la voie de Bamako. Et si aujourd'hui ça n'existe même pas, ça ne peut que fatiguer les populations. Les denrées qui nous amènent, qui sont les pâtes alimentaires, le sucre, le lait, coûtent extrêmement cher. On a fait des grandes sensibilisations au niveau des commerçants pour leur dire, à pareille situation, il faudrait bien qu'ils essayent, même à perte, d'atténuer les souffrances des populations.
Cependant, à Tombouctou, selon des commerçants, dès le début du blocus, ils ont pris des alternatives. Selon eux, il n'y a pas eu de hausse de prix. Ils précisent que toutes les marchandises ont été ramenées à Mopti pour emprunter la voie fluviale. Ousmane Cissé, président des commerçants détaillants de Tombouctou.
Il y a beaucoup de marchandises qui sont gâtées en cours de route. Mais quand ils ont arrivé à Tombouctou, vraiment ça va. Donc le grand dérangement, c'est le transport qui est devenu deux fois sur la marchandise. C'est pour cela que tous les commerçants sont en train de fatiguer. Mais Dieu merci, Tombouctou, il y a beaucoup de choses qui sont là, qui n'est pas augmenté. Notre souhait, les bureaux Tombouctou, Tonka, Nyafunke, jusqu'à Nyonon.
Des économistes déclarent que l'impact l'impact de ce blocus sera ressenti dans pratiquement l'ensemble du pays. Pour Abdul Karim Djamouteni, la solution réside dans le seul rétablissement de la circulation sur la route nationale 16.
C'est pas du tout bon pour l'ensemble de l'économie. C'est pas seulement l'économie locale. Le premier niveau, les bénéficiaires de ces produits-là, eux, ils vont constater une absence et une insuffisance de la quantité disponible, ce qui va avoir un impact forcément sur le niveau du prix, etc. Mais au niveau des autres localités qui fournissent, n'est-ce pas, ça engendre des pertes énormes. Parce que quand vous n'arrivez pas à vendre, c'est pas bon pour vous. Quand ça affecte aussi le secteur du transport, ce qui n'est pas du tout bien. Donc c'est globalement l'économie malienne qui est entachée, surtout dans une situation de crise où un peu les problèmes de liberté de circulation des biens et des personnes sont un peu affectés dans l'espace.
En attendant la levée de ce blocus des groupes armés, certains passagers dorment à la gare à Douanza. Ils espèrent avoir la priorité dès la reprise des activités. Mais selon eux, il faut payer au minimum 200 francs pour avoir l'accès aux toilettes, les nattes pour dormir ou encore une bouilloire d'eau.